Je vous invite à présent d'ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 22. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ? Je vous invite à prier encore une fois. Père Céleste, ce matin, nous voulons que ta parole, Seigneur, ait un impact dans nos vies, que nous puissions, Seigneur, la chérir, la prendre à cœur, la prendre au sérieux. Et Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre ce matin. Et Seigneur, dans la foi, je proclame que tous les cœurs et toutes les pensées sont ramenées captives à l'obéissance de Jésus et que rien ne résiste à l'action souveraine de ton esprit. Car Seigneur, c'est pour notre bonheur et pour notre édification que tu veux nous parler. Seigneur, c'est pour notre croissance spirituelle et pour faire de nous des témoins pour le jour à venir. Et encore une fois, nous te remercions de pouvoir vivre ce temps dans un lieu sécurisé, dans un lieu de paix. Et Seigneur, notre prière, Seigneur, se prolonge pour bénir ces multitudes qui sont dans des zones mille fois plus inconfortables que nous. Seigneur, nous les bénissons de tout notre cœur, dans la foi. Tu es avec eux, Seigneur, et tu te manifestes puissamment dans ces jours qui viennent. Amen. J'ai relevé l'éditorial au début d'année d'un journal bien connu en Suisse romande qui disait « Une terre déboussolée au moment de tourner la page 2017, voilà l'état du monde actuel. Une planète dont les habitants n'ont plus de repères erre dans leur vie pour se laisser séduire par divers chemins sans issue. Nous vivons l'étrange paradoxe des solitudes individuelles face à l'ivresse sociale de l'ultra-connexion, un faux semblant qui masque l'urgence de redonner du sens à nos vies. » Cette parole que nous avons lue, « L'œil est la lampe du corps », est véritablement une image, une illustration qui vient de Jésus lui-même, qu'il a dit et détaillé lors du sermon sur la montagne, pour nous rappeler que notre vie a besoin d'une vision, d'un regard juste. Si ton œil est en bon état, si ta vision est en bon état, toute ta vie sera éclairée. Et tu seras éclairé, comme il a été dit dans cette parole, comme la lune est éclairée par le soleil et qu'à son tour, elle ne fait que réfléchir la lumière. Si ta vision est correcte, c'est pour ça que j'aimerais développer avec vous quelques pensées autour de ce texte au sujet du juste regard que nous devons poser sur plusieurs choses. Le regard trahit beaucoup de choses, vous savez. Vous savez tous que ce que nous voyons et ce qui se passe dans nos yeux est déjà tout un message. Hein? Faire les yeux noirs ou les yeux éclairés ou les yeux amoureux, c'est tout à fait différent. Nous avons dans notre appartement une photo agrandie de nos enfants quand ils étaient tout petits. La petite avait, je crois, 6 mois et ensuite les autres 3 ans de plus chacune. Et il m'arrive, pas toujours, mais il m'arrive de m'arrêter devant cette photo et de regarder les yeux. C'est parce que l'image est tellement belle, tellement claire. Et en tant que parent, je connais très très bien mes enfants, bien sûr. Mais je peux vous dire que ce que je vois dans le regard de mes enfants quand ils étaient encore bébés trahit leur caractère d'aujourd'hui. Vous allez me dire que je suis doué. Non, je ne suis pas doué. C'est juste que le regard trahit vraiment quelque chose. On peut lire et déduire un tas de choses à partir du regard. J'aimerais qu'en 2018, nous ayons un regard, le regard de Dieu dans nos vies, une vision renouvelée du Seigneur et les promesses qui suivent cela. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel m'a oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Recevez ce matin un nouveau regard. La première chose, c'est que nous avons besoin de prendre conscience du regard de Dieu sur nous-mêmes. Quel est le regard que Dieu pose sur ma vie? Écoutez, psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et puis le psaume 139, David est en train de décrire la présence de Dieu en disant, « Seigneur, où fuirais-je loin de ta face ? Où est-ce que je pourrais aller sans que tu me repères, sans que tu me suives ?» Ton regard est vraiment partout. Quelqu'un l'a exprimé de cette manière en disant, « Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. » Dieu voit tout, on ne peut pas échapper. Je suis littéralement, comme David, intimidé par le regard de Dieu qui est partout. Et ma question ce matin, est-ce que nous sommes réjouis du regard de Dieu sur notre vie? Ou est-ce que nous cherchons à être mal à l'aise face à ce regard? Réjouissons-nous du regard du Père sur notre vie. Tout comme le papa se plaît à regarder son enfant, le Père céleste se plaît à te regarder. Et si tu es mal à l'aise, il y a peut-être quelque chose à reconnecter avec le Père. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à arranger, à rectifier, à retrouver. Il y a peut-être des repentances à faire pour être libéré de toute culpabilité. C'est ce mot qui m'avait suivi en fin d'année. Culpabilité qui traîne dans la vie de certains, qui demandent pardon continuellement pour les mêmes choses, qui ne sont jamais libérés. Frères et sœurs, ce matin, soyez libérés de la fausse culpabilité que le diable maintient sur votre vie en vous accusant, en vous faisant croire par un mensonge que vous n'êtes pas vraiment pardonné jusqu'au bout. Soyez libérés ce matin. Libérés de toute fausse culpabilité afin que le regard du Père soit ce regard qui vous édifie, qui vous encourage. Le mauvais regard d'un parent sur son enfant décourage et alourdit la marche de son enfant. Mais lorsque le Père a un regard bienveillant d'encouragement et de sécurité pour son enfant, vous êtes propulsé dans la vie, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui a vécu ça? Et je sais que certains, vous n'avez jamais reçu ce regard de votre Père terrestre. Il vous a manqué. Il a été un regard dont vous ne vous souvenez même plus. Mais j'aimerais que le Père céleste, ce matin, vous rejoigne dans votre situation et vous remplace ce qui vous a manqué. Le Père parfait va remplacer, va donner une place à ce vide qui reste dans votre cœur par rapport au regard du Père terrestre qui vous a manqué. Recevez-le. Le regard de Dieu va vous donner le repos du cœur et la sécurité intérieure qui vous permet d'aller de l'avant. Ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas frustrés de ce que vous n'avez pas reçu par vos parents. Parce qu'ils n'ont pu donner que ce qu'ils avaient. Certains n'ont pas pu, ou certains n'ont pas réussi, ou certains étaient tellement mal en eux-mêmes qu'ils n'ont pas pris le temps de donner ce qu'il fallait aux enfants, et après c'est trop tard. Une fois que c'est passé, c'est trop tard. Mais aujourd'hui est le temps du Seigneur, le temps du Père, qui va vous donner ce qui vous manque au fond de votre cœur. Recevez tout d'abord le regard de Dieu sur votre vie. Alléluia. Que vous receviez une vision juste du Père qui aime regarder, observer son enfant quand il joue, qui aime le voir partir quand il va à l'école, ou qui aime aussi lui faire encore un signe quand il est grand et qu'il passe la sécurité et qu'il va prendre son avion. Le regard du Père qui vous suit, qui se réjouit. Recevez ce regard. C'est la toute première chose. Afin que votre regard, votre œil intérieur, votre regard sur la vie puisse être réconforté parce que vous avez le regard du Père sur vous. Maintenant, j'aimerais parler courtement de quatre aspects de ce regard. Je vais d'abord le mimer afin que vous puissiez le voir. Premier regard, je regarde vers le ciel. Deuxième regard, je regarde au loin. Troisième regard, je regarde en moi. Et quatrième regard, je regarde ma montre. Première chose, si ton œil est en bon état, toute ta vie sera éclairée. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Voici ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 6, verset 1. Dans l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je vis le Seigneur. Un regard en bonne santé, c'est d'abord voir le Seigneur. Je vis le Seigneur. Ésaïe était dans un temps de changement. Le roi était décédé. Il y avait une nouvelle ère, une nouvelle étape qui commençait. L'année 2017 est terminée. L'année 2018 est là. Une page se tourne, même si du 31 décembre au 1er janvier, il n'y a rien qui s'est passé, n'est-ce pas? Mais une page s'est tournée, on va dire, virtuellement dans nos cœurs et dans notre vie et dans le monde. Il y a une étape, il y a comme quelque chose qui s'est ajouté. Et je vis dans ce temps de transition, je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Une révélation de Dieu est nécessaire pour chacun de vous en 2018. Une révélation du Seigneur qui est sur un trône très élevé. Il est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de nos soucis, de nos préoccupations, de nos inquiétudes, au-dessus de nos problèmes, de nos souffrances. Il est au-dessus. Il est le Dieu tout-puissant. Il gère, il contrôle, il règne. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est au-dessus. Je le vis sur un trône très élevé. Et en même temps, je bénéficie de sa proximité. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça veut dire que je peux toucher le bord de son vêtement. Je peux le toucher. Je vis le Seigneur. Cette vision de sa grandeur et de sa proximité est nécessaire pour chacun de nous. Amen. Vision de sa proximité et de sa toute-puissance. Le Seigneur proche. Comme Moïse qui parlait avec le Seigneur face à face, comme un homme parle avec son ami. Avons-nous besoin de retrouver une intimité, une proximité plus grande avec le Seigneur? Je vis le Seigneur. Bien sûr, on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est aussi Moïse qui va le Seigneur va le dire à Moïse. Mais nous avons Jésus qui dira, personne n'a vu Dieu sauf le Fils. Vous pouvez voir Dieu, vous pouvez avoir une révélation de Dieu, vous pouvez avoir une apparition du Seigneur, vous pouvez avoir une apparition d'un ange aussi, mais c'est exceptionnel tout cela, c'est exceptionnel, ça reste exceptionnel. Mais nous pouvons voir dans notre esprit, car Dieu est esprit et il faut le rencontrer spirituellement, d'esprit à esprit. Spirituellement, tu le rencontres et tu peux vivre une intimité incroyable, puissante et forte. Je voudrais communiquer ce matin cette soif de voir le Seigneur, de le rencontrer, de le toucher, de vivre cette foi dans le Seigneur Tout-Puissant, mais en même temps dans cette grâce et cette protection du Seigneur tout près de moi. Amen. Oh, combien j'aimerais, en 2018, voir comme Ésaïe, tout à nouveau. Ésaïe était déjà prophète, il était déjà serviteur de Dieu, mais il a été renouvelé dans cette vision. Mes amis, lorsque vous êtes renouvelés dans cette vision, vous n'avez plus besoin d'aller fouiller dans les archives de votre témoignage pour raconter un témoignage qui s'est passé il y a 30 ans. Mais lorsque vous voyez le Seigneur, vous avez quelque chose de frais qui est renouvelé. Vous vivez Dieu au quotidien, ou en tout cas à certains moments clés de l'année, vous vous souvenez parfaitement en 2017, lorsque Dieu vous a vraiment parlé, rencontré d'une manière spéciale. Ça ne s'est peut-être pas passé tous les jours, mais peut-être deux ou trois fois dans l'année, vous avez vécu quelque chose. Si cette expérience vous a manqué, ce matin, demandez-la. Seigneur, je voudrais te voir. Je voudrais être touché par toi. Je voudrais te rencontrer tout à nouveau. Je veux te chercher. Et merci pour ta promesse qui dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vois le Seigneur. La deuxième chose, je vous ai fait ce signe-là. Et je voudrais lire avec vous Jean chapitre 4, verset 35. Où Jésus dit, Jean 4, 35, « Levez les yeux et regardez. » Il ajoute, « Les champs sont blancs pour la moisson. » Dans Matthieu 9, il y a un texte parallèle qui dit, « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » L'apôtre Paul va aller à Corinthe et à Corinthe, il va démarrer, il va faire le tour de la ville et ça commence à se compliquer. C'est une ville particulièrement fermée, où il se passe tellement de choses sur le plan occultisme, sur le plan de toute la perversion qu'il peut y avoir, etc., d'une manière particulière. Et là, dans la nuit, le Seigneur lui dit, « J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Je voudrais qu'en 2018, frères et sœurs, non seulement quelques-uns parmi nous, non seulement les responsables de groupes de maison, les responsables ou les pasteurs, aient une vision de la moisson. Mais que toi, peut-être qui te sens quelque part un des petits de cette communauté, tu reçoives aussi une vision pour la moisson. Tu reçoives une vision qu'il y a à côté de toi des gens que tu peux atteindre et que seulement toi tu peux atteindre. Tu vas recevoir un fardeau de prière pour quelqu'un parce que Dieu te demande de prier et que ce n'est pas demandé aux autres, mais c'est à toi que Dieu le demande. Regardez la moisson qui est blanche. Il y a une moisson, il y a un peuple nombreux dans cette région du Grand Genève. Alléluia! Je crois que vous n'êtes pas encore convaincus. Il faut que je prêche plus fort. Il y a un peuple nombreux. Dans notre premier regard humain, nous disons, avec tout ce qu'on a déjà prié pour Genève, avec tout ce qu'on a déjà fait depuis tant d'années, comment ça se fait qu'il y a encore si peu de résultats? Mes amis, nos yeux humains, si nous restons là, nous restons forcément dans la lourdeur du travail et dans le découragement et dans le questionnement. Mais justement, il faut recevoir de Dieu la vision. Notre vision humaine, c'est pas ça. C'est pas ça qui donne une percée spirituelle. Il faut une vision de Dieu. Ésaïe vit le Seigneur. Il ne s'est pas imaginé le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Il a rencontré vraiment. La moisson, il ne faut pas la voir avec nos yeux, avec nos projets et notre stratégie. En disant, on va atteindre cela de telle manière, il faut voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne sont pas prêts aujourd'hui. Et le Saint-Esprit le sait, mais il veut te conduire vers des gens qui sont prêts. Parce que lui sait qui est prêt et qui n'est pas encore prêt. Et nos stratégies ne le savent pas. Mais le Saint-Esprit qui conduit l'Église et conduit notre vie désire justement nous faire lever les yeux pour qu'on voit la moisson et qu'on sente, là il faut investir, là il faut prier, là c'est le moment peut-être de faire quelque chose de particulier pour toucher cette personne. Vous savez, les gens ne sont pas touchés par nos prédications d'abord, par tout un tas de signes et de trucs qui se passent dans leur vie qui font qu'ils s'ouvrent. Et souvent, à 90%, c'est des actes et des attentions d'amitié et d'amour qui touchent beaucoup plus les gens que des prédications. Le Saint-Esprit voudrait nous utiliser à lui laisser de la place pour nous orienter et nous montrer quel bout de la moisson je peux entreprendre quelque chose, faire quelque chose ou prier, commencer à prier quelque chose. Sinon, nous allons nous décourager. Si nous disons, Seigneur, bénis Genève, et que dans 10 ans, nous prions toujours, Seigneur, bénis Genève, nous n'avançons nulle part. Il faut être conduit par le Saint-Esprit pour aller au bon endroit, au bon moment. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Lorsque Nicolas parlait du week-end de jeunesse, je repensais immédiatement à ce qui s'est passé dans un camp de jeunes ici, il y a 15 ans. Une jeune fille du groupe de jeunes avait passé une année misérable, difficile, dans la déprime. Et elle avait dit, Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis au bout du rouleau, je dépose les plaques, je ne fais plus rien. Et est arrivé le week-end, enfin c'était un camp de neige à l'époque, c'était un camp de neige. Et dans ce camp de neige, il se passait, la jeune fille était à part, elle était dans son coin, elle ne participait pas. Est arrivé le soir de prière du 31 décembre. Et le soir de prière du 31 décembre, elle était contre le mur, assise, comme ça, fermée. Et c'était un temps de prière, je crois que ça a duré une heure et demie, comme cela. Et ils étaient en train de prier. Ils priaient les uns pour les autres. Et c'était vers minuit, le 31 décembre, que cette jeune fille a été visitée par le Seigneur. Et que ce poids qui était sur elle s'est dissipé, a été enlevé. Le Seigneur avait répondu à sa prière jusqu'au dernier moment. Le 31 décembre à minuit, elle a été libérée par le Seigneur. Le Seigneur a son temps pour chacun de nous. Alléluia, je me réjouis pour le temps de Dieu et pour la patience qui doit être forgée dans mon cœur. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans l'endroit de la moisson qui est notre part. Dans Jérémie, le Seigneur au chapitre 1 va dire, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie va dire, je vois une branche d'amandier. Et l'amandier, c'est le premier arbre qui donne des fleurs au printemps, avant les autres. Le Seigneur va dire, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Le Seigneur te dit ce matin, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il est capable. Il est capable d'accomplir la parole dans ta vie. Il a son temps et son temps est plus rapide que tu ne le penses. Je pense qu'en 2018, il y aura des moissons qui vont se faire et qui ne vont pas traîner, qui ne vont pas traîner. Je voudrais vous dire, faites confiance au leadership de cette église qui cherche la face de Dieu pour la moisson, qui cherche la face de Dieu pour communiquer une vision. La vision vient de ce que Dieu donne aux responsables qui sont investis par l'onction du Saint-Esprit pour diriger l'Église. Cette onction donne une vision et le peuple de Dieu est appelé à saisir la vision, à entrer dans la vision, à suivre la vision. C'est là que nous sommes unis et forts. Mais si chacun va dans sa vision personnelle, nous n'aurons peu de résultats. L'important, c'est l'unité de la vision et l'impact de la vision, parce qu'on est derrière, tous derrière. Vous n'avez pas besoin forcément de chercher une vision personnelle pour l'Église, mais suivez celle qui vous est donnée. La vision, elle, de la moisson, voyez-vous, elle est aussi en croissance. Elle va grandir. Et que je sais que certains vont grandir dans cette vision de... Ils vont dire, mais Seigneur, le plus important, c'est des cœurs touchés, c'est des âmes gagnées, c'est des gens moissonnés pour le royaume, pour l'éternité, c'est des gens qui viennent vers toi, qui sont libérés. C'est ça le plus important. Si ce n'est pas encore très important, changez votre vision. Levez vos yeux et voyez comme Jésus voit. Si ce n'est pas très important, si c'est... Ah, j'avais complètement oublié qu'il y avait une moisson. Les disciples aussi l'avaient oublié. Ce n'est pas grave. Mais laissez le Saint-Esprit vous rejoindre pour vous parler ce matin. L'apôtre Paul, lorsqu'il va donner son témoignage, plus il témoigne, plus sa vision grandit. Il va dire dans le chapitre 9 des Actes, « Lorsque j'étais sur le chemin de Damas, j'ai vu une lumière. » Dans le chapitre 22, il va dire, « Lorsque j'étais sur le chemin de Damas, j'ai vu une grande lumière. » Et au chapitre 26, lorsqu'il témoigne encore une fois, il va dire, « Lorsque j'étais sur le chemin de Damas, j'ai vu une grande lumière qui surpassait l'éclat du soleil. » Sa vision grandit. Que la vision de la moisson, la vision de Dieu, la vision puisse grandir. Ayez soif d'une vision croissante. Un peuple nombreux va venir. Élargissons donc l'espace de notre cœur pour recevoir cela. Et je dirais, si certains doivent être guéris de la myopie, ça c'est aussi myope, mais j'ai d'autres problèmes de vue, mais c'est, la myopie est là-dedans aussi, elle doit être corrigée. La myopie, c'est voir de près, mais pas bien voir de loin. La moisson, il faut voir de loin. Corrigez votre myopie et laissez-vous guérir de votre cécité si vraiment vous êtes actuellement dans cet état-là. Troisième vision, je dois regarder mon cœur. Le psaume 139 dit, « Seigneur, regarde mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je n'ai pas besoin de tout savoir sur 2018, loin de là. Je n'ai même pas envie de tout savoir sur 2018. Pourquoi voulez-vous savoir ce qui se passe en 2018? Ce n'est pas nécessaire. Faites confiance au Seigneur. Mais j'ai besoin d'avoir un regard important sur plusieurs choses. Mon regard sur moi-même doit être corrigé par rapport aussi aux autres de la communauté. Que mon regard d'accueil puisse être comme celui de Jésus. Que je puisse accueillir chacun, sans exception, que Dieu envoie dans cette communauté, parce que c'est Dieu qui ajoute à l'Église, c'est tout. Ce n'est pas moi, c'est lui qui le fait. Donc je l'accueille, je l'accepte tel qu'il est, parce que je reconnais par là que le Seigneur a lui-même placé dans le corps les membres comme il a voulu. Ensuite, je veux aussi regarder avec vérité. Je veux regarder et parler vrai. Je veux avoir le regard de vérité et non pas d'hypocrisie. Je veux être encourageant, mais aussi accepter lorsqu'on a besoin de me reprendre et pas faire tout un cinéma parce qu'on doit me reprendre sur un petit point ou un autre. Acceptons le regard de vérité dans l'amour. Le Seigneur nous donne. Acceptons le regard de pureté aussi. En préparant ce message, je suis convaincu que certains ont besoin d'un nettoyage de leur regard, de nettoyage de leurs lunettes qui sont déformantes. Vous regardez, je vais le dire clairement, le sexe opposé avec un regard déformé. parce que vous avez trop plongé vos regards dans d'autres choses et votre regard sur l'homme ou la femme est déformé par cela, vous avez besoin d'un nettoyage par le Saint-Esprit, par la repentance. Et le Seigneur veut changer cela afin qu'un regard de pureté revienne dans votre vie. Et puis nous avons besoin aussi d'un regard de compassion. Je suis convaincu, frères et sœurs, que nous verrons plus de guérison pour les malades encore si nous avons plus de compassion. Lorsque je vois quelqu'un souffrir, je dois être touché. Ce n'est pas normal si je vois que souffrance sur souffrance et que je reste de marbre, que je reste froid et indifférent. Le mal de notre siècle, c'est l'indifférence. Nous avons besoin d'avoir un cœur de compassion, être capable de pleurer avec ceux qui pleurent. Quand est-ce que pour la dernière fois tu as pleuré pour quelqu'un ? Un regard de compassion. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il était mu par la compassion, même quand il voit quelqu'un de fatigué, il avait compassion. Lorsqu'il voit la foule fatiguée, hélas, il est dit qu'il avait compassion. Il n'a pas besoin de voir quelqu'un qui se tortille de douleur pour avoir compassion. Mais il voit quelqu'un de fatigué, il a compassion. Frères et sœurs, nous avons besoin de grandir dans la compassion afin de prier pour les malades. Je termine par le dernier point. Le dernier point. Nous avons levé nos yeux vers le Seigneur pour le voir. Nous voyons la moisson. Nous voyons aussi sur nous-mêmes notre regard intérieur qui doit changer à certains aspects. Et le troisième regard, c'est, je vous ai montré l'heure. Eh bien, le jour du Seigneur est proche. L'heure de Dieu, l'horloge de Dieu tourne et elle est pointée vers un point final qui s'appelle le retour du Messie, le retour de Jésus. Le retour du Messie, le retour du Sauveur sur la terre, il viendra pour régner, et non pas pour sauver, mais pour régner. C'est maintenant qu'il faut se laisser sauver. Il viendra pour régner. Il est dit dans Hébreux 10, retenons fermement la profession de notre espérance. Le retour de Jésus, c'est notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne quittons pas ou n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voir. Retenons en 2018, dans une grande place de notre cœur, le retour de Jésus. Ce message ne doit pas être évacué, mais doit être prêché, doit être proclamé. Le retour de Jésus, peu importe à quel moment il se passe, le message du retour de Jésus doit vibrer en moi. Il doit être vivant en moi. Il doit me réjouir. Il ne doit pas être un message de dire, Seigneur, non, pas maintenant. Je suis trop de plaisir dans plein de choses. J'ai trop de choses à faire ici. Reviens plus tard. L'amour pour le Seigneur et la joie de son retour doit avoir une grande place dans mon cœur. Prenez garde à vous-même, dira encore l'apôtre. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du boire et du manger, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste et qu'il vienne comme un filet qui subitement vient sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Et quand ces choses commencent à arriver, quand les signes se multiplient, levez vos yeux car votre délivrance approche. Je termine par... J'ai vu une fois un mariage de gitans, une grande famille très aisée de gitans. Je ne sais pas de quelle tribu ils étaient, mais ils avaient loué tout un parc pour le mariage de leurs enfants. Et ils avaient mis, comme on dit, les petits plats dans les grands. Vraiment, c'était en grande pompe. Et toute la journée, bon, déjà avant, bien sûr, c'était préparé, mais la journée du mariage, c'était une préparation incroyable. Il y avait des buffets de tous côtés, il y avait des chapiteaux, des tentes, il y avait tout cela qui se préparait, mais les enfants qui se mariaient n'étaient pas là. Ils étaient ailleurs. Et chez les gitans, c'est comme dans certaines tribus. À un moment donné, dans certaines tribus, vous savez, un mariage se fait quand le garçon emmène la fille dans la forêt, puis ils ont disparu pendant 3 jours, puis personne ne sait où ils sont. Ils reviennent, ils sont mariés. C'est le signe dans certaines tribus primitives. Mais ici, c'est les enfants, en fait, ne disent pas quand ils viennent. Et tout le monde sait qu'il faut attendre, il faut attendre. Mais ils vont venir, mais on ne sait pas quand. Et alors, vers la fin, quand tout est prêt, vers 3 heures de l'après-midi, tout était prêt. Alors on voyait le père regarder sa montre. Il faisait les 100 pas. Et puis toutes les dames étaient là, regardant leur, leur toilettage, etc. Tout était impeccable. Et maintenant, tout était fini, on avait transpiré, on avait regardé, tout était fin prêt. Maintenant, les mariés doivent venir. Eh bien, le temps passait, une heure a passé, à trépigner, à regarder sa montre, à respirer, à essayer d'évacuer le stress. Deux heures ont passé, les premiers ont commencé à craquer, on voyait des gens qui essuyaient leurs larmes, ils n'en tenaient plus, il fallait prendre des chaises pour les faire asseoir, etc. Trois heures ont passé, toujours personne. Et comme ils étaient dans un domaine, il y avait un portail d'entrée et tout le monde regardait tout le temps ce portail d'entrée. 3h30 ont passé. 3h15 et les gens étaient inquiets, crispés. Et à un moment donné, on voyait arriver des phares de voiture, une voiture, deux voitures, les phares allumés qui arrivaient. Et vous auriez dû voir, c'était filmé, les regards des gens, de toute la famille, de tous ceux qui avaient préparé. Les familles étaient là et ils commençaient à pleurer, à sangloter de voir les jeunes mariés qui arrivaient. Ils les avaient tellement attendus pendant 4 heures de temps, alors que tout était prêt. Frères et sœurs, comment attendons-nous le retour du Seigneur? Est-ce que c'est une vraie anticipation? Est-ce que quelque chose... Vous savez, l'époux divin se mérite. Excusez-moi de dire ça. L'époux divin se mérite. Le retour de Jésus, c'est une grâce, mais il y a quelque part... pas de place pour ceux qui disent « Ah bon, le retour de Jésus, ah ouais, ça fait partie du programme, mais bon, ne m'intéresse pas trop. » Est-ce que vous croyez vraiment que vous vivrez les noces de l'agneau de cette manière? Pas possible. Vous devez anticiper cela. Il faut que notre cœur bat au cœur du Saint-Esprit qui dit « Viens Seigneur Jésus !» L'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus !» Viens Seigneur Jésus !» Je vous invite à vous lever.